Bonjour à tous et puis merci d'être venus. On va faire une petite présentation autour de Futur. Je ne sais pas si on prononce Futur d'ailleurs ou Futur.re.
Aucune idée. Non, c'est vous prononcez comme vous voulez.
D'accord. Voilà. Donc il est paru dernièrement chez La Talente, qui est donc le quatrième roman de Dimitri Glogowski traduit en français, hein, puisqu'il y en a eu un autre, mais traduit. Donc Métro 2033, Métro 2034, Sumerki et enfin Futur. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont connu Dimitri Glogowski grâce à Métro 2033, qui a été notamment adapté en jeu. Donc ça aide.
Ça aide, hein. Ça recrute.
Oui. Et puis c'est international en plus le jeu, donc c'est vrai que du coup Métro 2033 a été traduit en je ne sais plus combien, une trentaine de 37 langues. Il y en a plus d'1,5 million d'exemplaires vendus dans le monde. C'est
ça
pas
va,
mal.
Ça va, je me débrouille, ouais, merci.
Donc là on va parler de Futur. Alors Futur, pour le présenter rapidement, et on va essayer de ne pas dévoiler la fin, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas eu le temps de le lire encore, hein, c'est quand même gros. Futur était ce qu'on appelle un roman d'anticipation, c'est-à-dire dans la lignée des 1984 d'Orwell, ou Meilleur du monde des mondes de Huxley, des romans dont les auteurs essayent d'imaginer ce que pourrait être le futur de notre monde éventuellement. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, vous avez choisi de faire ça. Est-ce que, enfin, vous êtes journaliste à la base, alors je me dis que peut-être il y a aussi une...
Oui, donc dès que j'étais un enfant, je rêvais toujours de deux choses. La première, c'était de devenir journaliste, même reporter. Et la deuxième, c'était d'écrire fiction. Et pas seulement on rêvait, parce que mon père, à l'époque, il était journaliste de radio. Il traduisait aussi la poésie serbe-croate en russe. Donc, les soirs, ce qu'il faisait, au lieu de jouer avec moi, c'était de s'installer à la cuisine, comme ça, parce que la cuisine, à la soviétique, c'est le même endroit avec salle de manger. Ensemble, ça compte plus ou moins 6 mètres carrés. Voilà, et tout l'appart comptait peut-être une trentaine. Et il s'installait là-bas avec une machine à taper en s'entourant de nuages de nicotine, en tapant comme ça ces traductions. Et moi, j'étais très inspiré par cette image. Et je pensais que j'ai dû absolument devenir un traducteur, un écrivain même. Et donc, les journées, quand il était absent au travail, moi, j'écrivais mes premiers essais dédiés aux aventures des lapins en peluche, mais aussi un grand-père Lénine. J'étais comme ça, donc j'avais toujours l'intérêt pour la fiction et pour l'imaginaire et pour la politique, beaucoup. Et je pense que, au travers de ma carrière littéraire, de la première classe en école, quand je faisais des premiers romans science-fiction dans les cahiers scolaires, je faisais tout ça, mélangeant les deux genres. Et donc là, forcément, ma carrière de journaliste, quand même, a dû influencer mes regards littéraires et le contenu de mes livres. Ça veut dire que même dans le premier livre, Métro 2033, que moi j'ai écrit quand j'avais 20 ans plus ou moins, et que j'ai publié quand j'avais 25, il y a des éléments politiques, il y a des éléments sociaux, et moi j'ai toujours difficulté à le définir comme science-fiction, comme certains gens essaient de le faire. Dès que quelqu'un me dit science-fiction, je l'attaque brutalement, voilà. Donc, en essayant de le tuer, et puis après on voit si ça arrive ou pas. Des fois, j'ai du succès. Donc, j'espère que ce n'est pas un rayon science-fiction chez vous.
Si.
Voilà. J'ai quelques de plus ennemis personnels.
Je vais aller me protéger, alors.
Comme ça. Alors, voilà, et c'est les éléments sociaux et politiques qui, quand même, jouent un très, très important rôle dans tous mes romans, et bien sûr, dans ce roman-ci. Ce qui m'intéressait quand j'écrivais Métro 2033, c'était surtout la société russe post-soviétique, telle qu'elle était après la disparition de l'Union soviétique, après la chute, pas seulement du système même, mais aussi de tout le système de coordonnées, des valeurs esthétiques, mythiques, historiques, tout ce qu'on avait, tout l'ensemble de mythes communistes, les héros culturels qu'on avait, tout. Ce qui m'intéressait ici en futur, c'était plutôt la société européenne, telle que moi je l'observais, vu que moi je passais quand même un bon moment en Europe après avoir terminé l'école. Moi j'ai fait mes études scolaires à Moscou, et à l'âge de 17 ans, je suis allé pour faire l'université en Israël. Après, à l'âge de 20 ans quelques, j'étais en Allemagne pour un an, et après j'étais embauché par une boîte de télévision d'actualité qui s'appelle Euronews et qui se trouve à Lyon. Voilà, donc j'ai pu quand même passer un bon moment en Europe, en pays différents, en l'observant, et surtout que Euronews était elle est toujours une société internationale, européenne, donc j'ai eu l'accès au crâne et à leur contenu, pas seulement des Français, mais aussi des Portugais, des Espagnols, des Italiens, et étant journaliste, je les parlais tous. Et c'est donc plutôt une analyse de la société européenne telle qu'elle est, elle est en train de, est aussi en train de devenir, et une petite projection aussi, petite, d'ici 500 ans, pour voir ce qu'on va devenir, ce que vous avez devenir, ce que nous allons devenir, parce que moi je me crois européen aussi. Donc c'est un peu l'égard de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.
Mais d'ailleurs, pour en revenir à ce côté européen du livre, moi je me suis posé quelques questions à la lecture, notamment de la langue. Parce qu'il n'est pas fait mention du tout dans le livre de quelle langue utilisent les personnages, puisqu'on se balade à travers à peu près toute l'Europe. Alors d'après ce que j'ai compris, peut-être l'action principale serait plutôt du côté de l'Allemagne.
Oui, c'est entre l'Allemagne et la France que
Oui,
l'action
c'est à
principale se
Strasbourg.
déroule. Il y a des parties très importantes de l'action qui sont à Barcelone,
Oui.
donc c'est en Espagne. Mais bon, je crois que dans 500 ans, on va voir quelle langue ça va être. Je ne suis
D'accord.
pas sûr. Peut-être on va mélanger beaucoup de choses. Déjà, ça dépend de la sphère, mais on s'en sert de beaucoup de mots anglais et américains. Et on s'en sert dans les certains domaines des mots français, des mots latins. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec la langue. Moi, je ne me suis pas posé cette question. Je ne suis pas Anthony Burgess. Et ça, c'est pas Clockwork Orange. Donc, ce n'est pas les questions de la langue, les questions linguistiques qui m'entretenaient ici.
Pourtant, il y a un travail sur les mots. Il y a des mots qui ont une importance capitale dans ce roman. Notamment, alors, il y a le thème de l'immortalité dans Futur, qui est peut-être l'un des thèmes centraux. Mais on retrouve aussi très fortement le thème de la mythologie, enfin, pas de la mythologie d'ailleurs,
L'Antiquité.
de l'Antiquité. On retrouve beaucoup de mots latins, grecs. Il y a un travail sur le mot même dans les noms. Des
Bon,
personnages.
ça provient de. Ouais, si déjà on regarde la couverture du bouquin, c'est la masque de dieu grec, et après aussi romain, Apollon, qui est la déité de la lumière, de la jeunesse éternelle et de la beauté. Voilà, donc c'est clair que pour moi, être immortel, être éternellement jeune, c'est un retour à l'Antiquité avec ses valeurs. Avec ses valeurs très, je dirais, corporelles, et avec ses valeurs qui sont pas vraiment, je dirais pas, spirituelles, parce que c'est ça la juxtaposition entre l'esprit et le corps. Et ça provient de la question, si on va besoin d'une âme quand le corps est éternel. Notre essai de se pencher sur l'âme, sur l'esprit, provient, pour moi, surtout de notre impossibilité comment dire, de s'investir trop dans le corps. Parce que le corps, assez vite, commence à dégrader. Vers 30 ans, il y a des premiers signes. Et vers 50 ans, ça s'accumule. Et vers 70 ans, ça devient déjà inévitable, presque. Hein. Donc, on est bien déjà là. Parce que au temps de Dickens, c'était beaucoup plus tôt. En s'en parlant de l'âge de pierre. Mais si notre corps ne vieillit plus, et si notre corps est immortel, et si on n'a pas de souci de quitter ce monde parce qu'on va être toujours là. Est-ce qu'on aura besoin de cette possibilité de sauvegarder notre personnalité sur ce service de nuage que le paradis est en fait, cloud service? Va-t-on avoir besoin de l'âme? Est-ce que le concept de l'âme va encore exister? C'est pas prévu, c'est pas évident. Donc voilà. Et puis, ça serait donc le retour à la culture corporelle de l'Antiquité grecque.
La beauté,
la santé physique et les plaisirs humains corporels.
Charnel, oui. Immédiat.
Immédiat, voilà, charnel, exactement. Donc c'est pour ça en fait et ce monde-là où la mort n'existe plus, où les gens vieux sont regardés comme une perversion, en plus perversion volontaire, où il n'y a que des jeunes, des saints, des souriants et des contents, c'est clair que on doit parler de la Grèce antique, et c'est clair que les racines et l'inspiration d'une culture qui va apparaître serait bien sûr l'inspiration antique. D'ailleurs, en gagnant une victoire dans cette lutte contre la mort, ce qu'on atteint surtout, c'est un rapprochement de cet idéal déique, des panthéons grecs, qu'on avait depuis toujours et qui est très profondément enraciné dans la culture européenne.
Oui.
La plus grande différence entre un dieu et un être humain mortel dans la mythologie grecque et romaine, c'est l'immortalité. Parce que les dieux grecs, ils ne sont pas tous tout-puissants. Il n'y a que Zeus qui peut faire tout, mais les autres sont bornés par leurs relations politiques, par leurs capacités, ils ont des dons, mais ils ne sont pas tout-puissants. Par contre, c'est leur immortalité et leur jeunesse éternelle qui fait la différence entre eux et les êtres humains qui sont obligés de mourir. Et c'est le plus grand don qu'un Dieu peut faire à un être humain, c'est de la rendre immortelle. Donc, voilà.
Son égal.
Voilà. Et donc, voilà, on devient les dieux. Mais en devenant des dieux, on doit sacrifier notre partie animale. Bon, pour moi, être humain, c'est d'être composé de la partie animale qu'on hérite depuis l'âge de pierre, après des singes, et après des singes, d'autres bêtes sauvages. D'ailleurs, on est très animal, nous. On est... Bon, l'espèce humaine compte plus ou moins 1 million d'années de l'histoire, ça dépend de compteurs. Et les civilisations, on compterait plus ou moins 10 000 ans. Ça veut dire que c'est juste 1% de notre existence en tant que Homo sapiens qu'on sait lire, construire, raconter les histoires, accumuler les savoirs, les passer à génération. 10 000 d'années qu'on peut vraiment s'appeler humain et 90%, 99% de notre histoire qu'on restait exactement le même, sans aucun développement majeur, et qu'on était en fait se comporter comme les animaux. Est-ce que ce 10% a pu changer notre nature? Moi, je doute. Hein. Et en fait, les émotions qui nous guident dans nos vies, autant les femmes que les hommes, quoique ça peuvent être des émotions différentes, qui nous dictent en fait le comportement un peu absurde des fois, qui nous rendent des victimes tellement vulnérables des manipulations psychologiques et politiques, c'est exactement notre composant, notre état animal, c'est le fait qu'on est 99% des animaux. Mais là, avec l'invention de l'immortalité et notre rapprochement vers le statut de Dieu, que ça devrait changer. Surtout que dans le livre Future, il y a un prix à payer pour l'immortalité et pour la jeunesse éternelle. Et le prix, c'est que chaque couple qui décide d'avoir un enfant devrait, en décidant entre eux, volontairement renoncer à une jeunesse éternelle, à l'immortalité, en deux, soit l'homme, soit la femme, selon leur propre décision, hein, parce que c'est une société quand même démocratique qui respecte les droits de l'homme.
Et puis qu'il y a la surpopulation. Donc
à cause de la surpopulation, oui. Ouais, parce qu'il y a des contraintes, parce que on ne peut pas se reproduire plus. Il y a déjà 120 milliards d'habitants en Europe. L'économie et l'écologie sont déjà à la limite de leur possible capacité. Donc, on ne peut plus se reproduire. Et voilà, donc, on donne ce droit aux gens, mais clairement, l'État et le système social vont essayer de décourager les gens d'avoir des enfants. Parce que c'est, même si c'est leur droit, ça va peser sur le système économique et social. Il faut élever, éduquer les enfants. Il faut faire soin, prendre soin des vieux qu'ils deviennent. Parce que voilà, le prix, c'est de, après avoir déclaré la grossesse, donc il y a une équipe qui vient et qui injecte ceux qui décident d'être responsables, le mère ou la mère, le père ou la mère, par un virus de vieillissement artificiel accéléré qui aurait détruit cette personne par vieillissement accéléré dans 10 ans. C'est une société très humaine, humaniste, donc ce n'est pas une mort immédiate, mais vieillissement. Il pourrait ou elle pourrait quand même élever l'enfant jusqu'à l'âge certain, jusqu'à la puberté en fait. Parce qu'après la puberté, l'enfant puisse reproduire encore, donc c'est déjà, ça débalance le système. Voilà donc. Et la société, bien sûr, l'État et la société découragent les gens d'avoir les enfants.
Et c'est là qu'intervient le héros.
Et c'est là qu'intervient le héros. Je ne vous raconte pas trop, je suis désolé pour bavarder autant. Mais ce que je veux dire, c'est que la possibilité d'avoir des enfants et de se reproduire, c'est à la base une chose très animale. Tout ce qui est lié à sexe, et aux enfants et aux relations entre les genres, c'est un truc très animal. On essaie de comprendre, de systématiser, de donner des conseils psychologiques, mais c'est vraiment notre pensée rationnelle n'a rien à voir avec les processus qui se passent. Un sexe, c'est quelque chose de très absurde. Si on, et c'est vraiment le traité de point de vue d'un être humain. Voilà, donc je sais bien qu'il y a un culte de sexe ici en France, donc je suis désolé si j'insulte quelqu'un. Voilà, mais quand même. Donc, on doit se séparer, sacrifier sa partie animale pour devenir plus déique. Donc, dans cette composition semi-animale, semi-déique que nous donne en fait notre statut d'être humain, il y a un changement. On devient moins animal et on devient beaucoup plus déique. Mais est-ce que ça va nous rendre aussi moins humains? C'est ça la question que je pose.
En fait, dans le livre, ça va même plus loin. Par moments, on a l'impression que justement, ces références à l'Antiquité et l'immortalité, puisque dans la société qui est créée là, l'art a quasiment disparu. Les choses sont plus ou moins figées. Il y a des théories comme ça en psychanalyse qui disent que c'est la pulsion de mort qui crée qui crée l'art, qui crée l'artistique.
Je suis très d'accord. Bon. Si je m'analyse moi-même, le besoin de créer provient surtout du sentiment que moi je vais disparaître un jour, je disparaîtrai et donc il faut laisser quelque chose après. C'est aussi la nécessité de créer quelque chose pour impressionner les autres, hein, pour obtenir un statut certain dans la société. Mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est une aspiration plutôt d'un jeune. Et là, le plus adulte tu deviens, plus tu veux quand même laisser des traces, laisser
des échos.
Voilà, par exemple, ouais. Laisser quelque chose après toi, pour que il y aurait des choses qui restent quand tu n'es plus là. Ouais. Les enfants, en fait, c'est une continuation, mais pas seulement génétiquement, parce que là, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très émus en regardant comme leurs enfants leur ressemblent, et les gens qui s'en foutent plutôt. Mais quand on pense qui va élever tes enfants et quelles valeurs tes enfants vont avoir, ça devient très très important, tout d'un coup. Donc, les enfants sont à continuation, pas seulement en leur apparence physique et en leur groupe de sang, mais aussi dans ce que tu leur racontes, ce qu'ils savent, ce qu'on comprenne de la vie, si finalement ils vont avoir des mémoires de toi ou pas.
Ce qui est brisé aussi, d'ailleurs, dans cette société.
Oui, ce qui est entièrement brisé. Même.
La filiation, c'est aussi un autre thème qui est très important dans le livre. Et cette filiation est compliquée, puisque la vieillesse est mal vue, que de toute façon, si on choisit d'avoir un enfant, on ne peut l'avoir avec soi, on ne peut l'élever qu'un nombre d'années limité. Et après, il y a ce que vous avez créé, ce sont les internats,
ouais.
qui sont des endroits... absolument affreux.
Ça n'existe pas le mot internat en français ?
Si, ça existe, mais chez nous...
C'est un mot très russe.
On a des internats en France, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt sympathique, les internats français.
Ah ouais.
Là, c'est... Effectivement, on
pas
retrouve... Mais c'est là qu'on retrouve un petit peu un côté effectivement russe.
Mais même pas autant. Hein. Il faut savoir bien que l'Europe... semble d'être au meilleur endroit pendant les derniers 60 ans, 70 ans. Avant, on avait tout, hein, on peut.
Ah oui.
Donc, on ne sait pas comment ça va se développer. Hein. Et on aime bien, dans l'actualité russe, décrire les Européens comme une société dépravée, vieillissante, qui n'a plus de passion de vie, rien de valeur. Surtout, il montre les homosexuels en Danemark qui maintenant ont le droit de se marier ou d'adopter les enfants, en montrant que c'est ça l'Europe, en fait. Mais c'est de la propagande, un peu, en utilisant des instincts un peu animaux que nous, on a tous. Juste expliquer au peuple pourquoi nous, on n'a pas des élections comme en Europe. Hein. Parce que c'est juste que les homosexuels dépravés qui ont des élections, des homosexuels retraités qui se promènent qui se baladent avec des drapeaux multicolorés, qui peuvent avoir des élections. Et nous, on a des autres valeurs. Hein.
D'accord.
Des vrais. Bon, je comprends. Bon, c'est pas grave. Hein. On continue. Après, je vais expliquer pourquoi je le dis.
Pour revenir à Futur,
ouais.
justement, donc l'immortalité du peuple, combinée à tout l'aspect antique qui est mis autour pour habiller, en fait, donne l'impression que les êtres humains veulent se rapprocher de Dieu, mais en fait sont des coquilles vides, qu'il n'y a plus rien en eux, il n'y a plus d'élan. Le personnage représentatif de ça, c'est le sénateur Schreier.
D'accord, ouais.
Non.
Ouais. Non, enfin, il y a plusieurs personnages et le sénateur Schreier, c'est juste, je dirais, bon, comment dire, pour aborder ce sujet, il n'y a pas de personnages dans ce livre qui sont personnages fonction. Ce sont tous des êtres humains avec leurs faiblesses, avec leurs aspirations. Leurs secrets cachés, leurs complexes, et même les personnages qui semblent d'être les parfaits antagonistes ou les parfaits protagonistes ne le sont pas. Pas assez que c'est comme dans la vie. Hein. Et moi, en écrivant ce bouquin-là, j'ai commencé ma soi-disant carrière littéraire par écrire un bouquin qui est devenu surtout un bouquin populaire. Et il y a des choses assez simples dans ce bouquin-là, Maître 2033. Il est charmant, bien sûr. Il est très accueillant. Moi, j'aime bien le relire des fois, malgré, mais pas trop souvent. Hein. Mais quand de moins tu lis la littérature de genre et la littérature de fiction, de plus tu lis la littérature réelle, de plus tu commences à comprendre la différence. Et de plus, tu commences à être un peu fatigué par les formules et les schémas que la littérature de genre emploie. Et de moins, tu veux les employer toi-même. Et de plus, tu veux quand même si tu as des circonstances, une société plutôt avec des éléments d'imaginaire ou de projection, d'anticipation que tu crées, faire ton sujet, priver ton sujet de schémas et de clichés, et de trucs typiques, des formules de genre, plus tu veux improviser, et plus tu veux rester être réel et réaliste en description de tes caractères. Donc, Futur, c'est vraiment un essai de créer un roman sérieux, juste avec deux, trois, je dirais comme ça, circonstances, traits de société qui ne sont pas encore notre temps. Sinon, ce n'est pas vraiment écrit selon les canons de genre. Et surtout, les antagonistes, on peut avoir une sympathie vers eux, une certaine, on peut le comprendre. Et surtout, le protagoniste, il n'est pas un héros du tout, hein. C'est un contre-héros, c'est un psychopathe acharné, endoctriné, pervers, très nerveux. Et c'est lui qui fait la narration, c'est lui qui raconte son histoire en fait. C'est 730, je ne sais pas combien de pages, sont narrées quand même par quelqu'un de très perturbé et tordu. Donc il faut que vous étiez prête. Hein. Et voilà, donc dans le monde où le protagoniste il n'est pas forcément un héros, l'antagoniste il n'est pas forcément un contre-héros. C'est une collision, c'est un conflit entre les gens vivants qui auraient aimé être déiques, mais la question que je me pose, s'ils peuvent l'être, et si même après avoir gagné la bataille, la lutte contre la vieillesse, le vieillissement et la mort, on ne prêt pas, on a fait, on ne devient pas prêt à l'immortalité, à l'éternité. Parce que c'est trop grand pour nous. C'est bon, c'est une des lignes.
Oui, justement, pour en revenir à ce fameux héros qui s'appelle 717, alors 717 par moment, 717 par d'autres, Yann en fait,
Yann.
son nom de famille. Donc Yann, le héros de
Yann, c'est
ce...
son prénom. Mon famille,
C'est
c'est
son prénom,
Nartigal.
Nartigal, ouais, c'est ça. Deux T, alors d'ailleurs, à chaque fois, après les noms de famille, il y a un chiffre et un...
De thé, ouais. Parce qu'il y a trop de monde. Hein, il faut. Ouais.
Ah oui, c'est pour prolonger le nom de famille.
Non, c'est pas pour prolonger, parce qu'il y a autant de Yann Nartigal qu'il faut faire en
D'accord.
autre identifiant.
D'accord.
Ouais.
Okay. Et donc ce fameux anti-héros est un homme violent, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, perturbé, qui a une enfance particulière, qu'on ne va pas dévoiler, et qui est un homme qui n'aime rien ni personne, en fait, au début du roman. Et c'est cet homme-là auquel on s'attache.
D'une façon étonnante.
Étonnante, de façon étonnante, mais parce que aussi
Bah,
c'est
je
une
savais
histoire
que les
d'une
filles aiment
rédemption.
les bandits, hein. C'est clair. Hein.
Oui, mais là quand même.
Ouais.
Mais c'est parce qu'il y a une forme de rédemption aussi chez ce personnage.
Mais pas au début, hein.
Pas au début.
Mais même pas à la fin.
Mais
Pas
si.
trop.
Il y a une forme de rédemption quand même. Enfin, en tout cas, il y a une
Une
forme de
forme.
questionnement.
Questionnement, ouais.
De questionnement, notamment au début, il rejette quand même tout, que ce soit
Ouais.
les sentiments, que ce soit la filiation, que ce soit Dieu. Tout est rejeté en bloc, et puis petit à petit.
Il commence à poser des questions.
Ouais.
C'est humain.
Ouais. Il y a un petit côté biblique aussi.
Ouais, bon. Ouais. Moi, je fais un peu de Bible pour le pauvre et comment dire? Analphabète, ouais. Pour ceux qui ne peuvent pas lire le Bible en papier, ils peuvent quand même écouter à mes bouquins.
Parce qu'il y a aussi, mais il y a quand même cette question-là, cette question de Dieu qui revient dans le livre aussi.
Bah oui.
Ce côté, est-ce que justement Dieu étant devenu, enfin les hommes étant devenus immortels, il y a un très beau passage dans le livre où vous dites que Dieu a été chassé du ciel parce que il y a plus de place pour lui dans le ciel maintenant, il y a des gratte-ciel.
Ouais, voilà, parce que c'est une civilisation verticale, oui.
Ouais.
Il n'y a pas autant de place, d'espace pour tout le monde sur la Terre, donc c'est des gratte-ciel qui remontent jusqu'aux nuages, hein, voilà, et qui ce sont les bâtiments, en fait, ce sont des espaces enfermés qui sont encombrés l'un sur l'autre, et c'est comme ça que les gens vivent. En plus, ils n'aiment pas vivre dans les boîtes, donc ils simulent des espaces ouverts avec des projections 3D en très haute définition. Donc, c'est pas de différence entre ce que l'œil humain peut distinguer. Donc, ils peuvent vraiment vivre avec cette illusion qu'ils ne sont pas dans une boîte enfermée, mais dans un village simulé dans les Alpes suisses, par exemple, ou sur une île tropicale perdue dans l'océan. Sauf que l'océan va s'aboutir au bout de 3, 5, 3, 4, 5 mètres à partir de la plage. Mais bon, c'est déjà pas mal.
On heurte souvent des écrans dans le livre.
Ouais, voilà. Et oui, c'est une civilisation un peu synthétique et simulée, comme ça, on s'entoure de beaucoup de simulations. Mais déjà, comme dans notre monde à nous, hein, on ne voit pas. Bah, moi, je ne voulais pas. Et vous ne trouverez pas beaucoup d'éléments, d'autres éléments science-fiction. En fait, le seul élément science-fiction, c'est l'immortalité. Tous les autres, ils n'ont pas de vol spatial parce qu'ils ont raté cette possibilité. Parce que si nous, maintenant, on regarde le succès des vols spatiaux, c'est pas évident du tout, hein. On s'en occupe pas. L'époque dorée du vol spatial, c'est passé dans les années 60, il y a 50 ans. On n'a rien fait de nouveau, presque. Elon Musk est en train de lancer des trucs, mais c'est un peu comme un petit gamin qui fait des essais dans la cour de sa maison, hein. Les États et les industries d'État ont renoncé à ça, largement. Il parle des projets spatiaux, mais on voit que autant qu'il n'y a pas de fric en haut, personne ne va le faire. Même peut-être, il y a un petit espoir qu'à cause de la compétition maintenant entre la Chine et les États-Unis, par prestige, ils vont faire des investissements. Mais la Chine vient d'avoir une chute économique importante, donc ça, c'est pas évident dans son futur. Donc voilà, je ne pense pas qu'on va être même mettre en pied sur Mars d'ici 20-30 ans.
La biologie a un peu remplacé en fait tout ça, enfin.
Biologie, ouais, la biologie, par contre, et les télécoms ont remplacé ça. On voit des façons beaucoup plus faciles, moins chères et surtout appropriées pour l'industrie privée développer ça. Pas en France, mais aux États-Unis, on mange déjà je sais pas, des citrons avec les gènes de scorpions, etc. Et donc, c'est les pommes de terre qui mangent les insectes et pas l'envers. Et ça va très bien, hein. Bon, ici en France, on dit que c'est l'industrie chimique a pu gagner la bataille contre l'industrie génétique parce que, en fait, les manipulations génétiques, tout ce qui est modification génétique, ça permet de ne pas utiliser tous les chimicas, voilà, qui tuent les insectes, les maladies, etc. Donc, l'industrie chimique est derrière un peu la bataille contre les GMO, parce que bah, elle va perdre le marché. Donc, c'est pas une bataille entre ceux qui sont pour la nature et ceux qui sont contre la nature. C'est entre la chimique et la génétique.
Les
Voilà.
industries.
Bah.
Et
Donc voilà, mais sinon, ce que j'allais dire, c'est que voilà, il n'y a pas de grande différence entre la société dans laquelle nous on vit maintenant, aujourd'hui, et la société qui mange des cris. Donc les télécommunications à peu près au même niveau. Je voulais pas distraire, hein. Je veux pas dire que je fais une projection exacte de notre futur, mais surtout je voulais pas distraire le lecteur des thèmes centrales que je proposais à discuter.
Mais d'ailleurs, oui, les éléments de science-fiction sont très réalistes puisque vous partez de l'hypothèse que l'immortalité viendra d'une trituration de l'ADN.
Ouais.
Or, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est il y a 2 ans qu'ils ont repéré le gène qui produit l'hormone qui dit aux cellules, maintenant
Oui.
il faut vieillir.
Ah oui, mais oui. Et ils ont gagné prix Nobel quand même pour cette
Oui,
découverte.
oui.
Il y a plus de 2 ans même.
Ah oui.
Il y a 5 ans, plus ou moins. Donc voilà, ils ont. Et déjà, même à Moscou, dans une apothèque, en pharmacie, on voit déjà en vente les pilules qui coûtent quand même plus de 1 000 euros en pack, qui sont basées déjà sur le traitement génétique. C'est écrit en prix Nobel 2000, je sais pas quoi, 11 ou 2010. Donc il y a des sociétés privées qui essaient déjà de créer des trucs. On sait peut-être encore c'est des trucs charlatans, mais on ne sait pas.
Oui, en tout cas, même dans les magazines scientifiques, ils en parlent de plus en plus, hein. Ils disent que ça va
Voilà.
venir sur le marché.
Voilà.
C'est effrayant.
Et peut-être, ou pas, peut-être c'est moi qui est un personnage sombre, comme ça, pessimiste. Et en fait, le futur va être très sympa.
Oui, peut-être que ça va nous libérer du temps pour faire plus d'art.
Voilà.
Quelques dernières petites questions d'ordre plus général. Est-ce que vous, en ce moment, vous travaillez sur un nouveau livre? Est-ce que...
Je viens de sortir la fin de la trilogie Métro, qui s'appelle Métro 2035, logiquement. Je l'ai sorti au mois de juin. Et là, maintenant, j'étais un peu en tournée au travers de Russie pour l'introduire à mon lectorat. Et pour l'instant, je ne fais rien. Bon, je suis en tournée en France pour Futur. Et j'écris rien d'autre. J'ai des plans,
Oui.
mais je ne suis pas encore sûr lequel d'entre eux dois-je aborder. Voilà.
Un petit mot sur Métro 2035?
Oui, vous allez pouvoir le lire d'ici 1 an et demi, plus ou moins.
Oui.
Et ça serait ben, la fin de la trilogie. Et en même temps, c'est. Je dirais, c'est une réinterprétation de l'histoire telle qu'elle est. Et on essaie de mettre tout ce que vous avez, de bouleverser un peu tout ce que vous avez su sur l'histoire du caractère principal et le monde entier, de raconter une fin qui pourrait vous laisser quand même recomprendre tout d'une perspective entièrement différente. Et en changement de tonne, de ton, de style, de l'atmosphère un peu. Mais c'est un thriller et ça revient au destin de personnage principal du premier livre.
Arthur.
Ouais.
Deux petites questions encore. Pourquoi le titre avec un point?
Ah, parce que c'est le nom du site.
Ah, d'accord.
Donc vous pouvez aller.
D'accord.
Vous le tapez comme ça. C'est d'ailleurs c'est le domaine de Réunion. Donc c'est la juridiction française.
D'accord.
Vous devez ressentir une sympathie automatiquement. Et voilà, donc vous pouvez y aller maintenant en tapant le truc sur le nombre le titre du bouquin dans votre ligne d'adresse de votre browser. Et vous allez avoir des illustrations couleurs, et puis la musique qui a été créée exprès pour ce projet-là, et ainsi que les 5 premiers chapitres gratuits.
C'est vrai que vous avez travaillé en amont avec le public, en fait, sur Internet.
Je le fais toujours. Hein.
Vous l'aviez déjà fait avant, oui.
Ouais. Dès le premier roman, je mets chapitre par chapitre, je publie les romans en tant qu'ils sont en train d'être écrits. Je les mets en ligne. Et voilà, je commande une création d'une bande sonore par des musiciens. Des fois, ce sont des illustrations qui accompagnent chaque chapitre. Il y a même des certains. Bon, il y a quelques pour chaque chapitre, hein, enfin. Donc, il y a toute une galerie et ce n'est pas la première fois que je fais. En fait, normalement, je le fais en créant le livre. Donc, ça devient d'abord un projet Internet. Après, il y a un livre en papier qui sort. La publication gratuite, parce qu'elle est gratuite, s'arrête pour 3 à 6 mois. Après, elle reprend. Et normalement, tous mes livres en russe sont disponibles gratuitement en ligne. Donc, on peut les lire de leur site dédié. Chacun des projets a son propre site avec sa propre esthétique, son monde élaboré. Et voilà, y compris futur. Mais bien sûr aussi, il y a quelque chose il y a un sens. C'est pas juste des en point qui rend ça. Mais pour moi, futur, ça m'a paru. Ah bah, rétro-futuristique, je peux dire. Donc, on est dans le futur, mais on regarde en arrière. RE, bon, c'est comme refaire, regarder en arrière, reculer un peu. Est-ce qu'on est prêt pour tout là? Est-ce qu'on est prêt pour le futur? Donc, c'est. Oui, voilà. Et j'ai dû, quand même, à cause de cette idée, racheter le site et j'ai beaucoup payé pour ce site. C'est clair que ce n'est pas moi qui avais l'idée brillante. Surtout que c'est un titre en anglais, hein, Future, on l'écrit comme ça.
Oui, bien
Donc,
sûr.
ouais, j'ai dû payer un sacré montant pour. J'espère que ça va être récompensé par la popularité inexplicable de ce roman en France.
Est-ce que vous avez modifié, enfin, suivant les. Vous avez eu des retours de lecteurs au fur et à mesure des chapitres que vous mettiez sur Internet?
Ah oui.
Vous avez modifié
Ah,
la trame?
non, pas dans ce
Non?
bouquin-là, non.
D'accord.
Métro 2033, si. Mais ici, déjà, la narration a été tellement compliquée que moi, je revenais tout le temps. Enfin, je commençais à publier quand j'avais déjà 2 tiers du bouquin écrit, quand je savais déjà où je vais. Parce que pour moi, c'est toujours une découverte. J'ai pas de plan prévu.
Pas de fin avant là, le début?
Enfin, j'avais des idées, une idée peut-être, mais ce n'était pas l'idée que j'utilisais hein, à la fin. Donc, pour moi, c'était vraiment un voyage et une découverte. J'avais plus ou moins une idée, peut-être d'un point de détour de sujet, mais sinon, je ne savais rien. J'ai eu 10 commencements pour ce livre. 10 fois, j'ai écrit le premier chapitre et j'étais jamais satisfait. Donc, le personnage principal changeait, le ton changeait, et j'ai dû reprendre. Donc, c'est le dixième. Attends, non.
Essai.
C'est le dixième essai. Ouais. C'est le dixième essai de le commencer. Et après, c'était toujours à l'improviste. J'avais une prévision pour un chapitre, deux chapitres en avance, comment j'allais faire dérouler le sujet. Mais sinon, je savais rien. Et je préfère comme ça, en fait. Si tu improvises, si tu te laisses étonner ensemble avec ton personnage principal, hein, et ensemble avec le lecteur. Donc, du coup, les paroles que tu trouves pour le décrire sont beaucoup plus sincères et ils sont toujours seulement comme ça, elles vont être suffisantes pour décrire les émotions parce que toi, tu vis ces émotions ensemble avec ton personnage. Et si tu l'enfermes dans un espace dont il doit trouver une sortie, tu dois chercher cette sortie avec lui ensemble. Hein. Ne pas savoir. Il y a un chapitre là-bas, une des dernières chapitres où ils sont enfermés dans un espace. Ils ne savent pas comment en sortir.
Avec les criquets? Avec les criquets?
Avec les criquets, oui. Avec les criquets, et c'est un chapitre très énervant. Et moi, je ne savais pas comment ils doivent sortir de là-bas. D'ailleurs, j'étais à Barcelone à l'époque quand j'ai finissé le bouquin. J'avais aucune idée comment ils vont en sortir. Et j'étais très énervé, ensemble avec eux, très excité. Et ça se sent dans le chapitre. Si, par contre, j'avais un plan prévu dès le début, ça serait déjà des émotions refroidies,
Filtré,
filtrées, congelées même, hein.
oui.
Donc, ils vont, moi, en sachant déjà depuis 6 mois tout ce qui devrait se passer, je pourrais, même, j'ai peut-être je manquerai des paroles, parce que pour moi, c'est déjà clair, connu. Moi, je le sais depuis un moment. Hein. Des certaines choses que moi, je veux dire sont évidentes pour moi. Et ça vaut pas la peine de les écrire. Mais si tu le découvres avec ton caractère principal, peut-être tu écris un peu trop. Trop long, trop détaillé, mais comme ça tu es sûr que le lecteur ressentit exactement la même chose que toi tu as ressenti au moment de l'écriture.